d'inexpérience. Qu'est-ce que vous avez comme traduction, la seconde surtout?
Ouais.
Alors, la fin du chapitre 12 nous raconte qu'il a été visité par sa famille. Au verset 46, comme Jésus s'adressant encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Vous vous sentez concerné? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Puis, étendant la main sur ses disciples, excusez ses disciples, nous sommes ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Ne venez pas dire que, parce qu'on est protestant, on ne croit pas en Marie. C'est à cause de cette lacune que j'ai écrit en son temps ce livre, Les leçons de Marie, mère de Jésus, et qui est traduit en plusieurs langues. Parce que je remarquais que dans nos assemblées ou dans nos églises, on parlait de toutes les femmes de la Bible, sauf de Marie. Or, nous avons des leçons extraordinaires à recevoir de la mère bénie de notre Seigneur. Qui est ma mère? Voici ma mère et mes frères, car quiconque, alors vous retournez toujours dans cette volonté de Dieu, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que vous le saviez? C'est bon, hein, cette compagnie et cette relation. Mais vous voyez, tout dépend d'une relation intime avec le Seigneur. Alors, ce même jour où il a dit cette fameuse vérité, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Et vous avez d'abord la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il y a des choses mystérieuses hein, dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur voudrait nous les faire connaître. Et que cela ne leur a pas été donné à ces juifs religieux qui ne croyaient pas en lui. Car on donnera à celui qui a, est-ce que vous avez quelque chose ou quelqu'un, on donnera à celui qui a. L'avez-vous reçu? Et il sera dans la misère. Toujours dans le rouge. Non, dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il faut que ça ait autorité, cette parole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Oh, qu'il n'y ait personne ici qui soit dans ce cas-là. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Alors vous voyez, en nous, tout ce qui fonctionne, hein, les yeux, le cœur, les oreilles, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est quand même merveilleux qu'il ait bien voulu lui-même nous expliquer ce qu'il entendait. Alors nous voulons rester à l'écoute du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé de son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Elle la reçoit aussitôt avec joie. Et vous savez, on peut dire ici que quand on reçoit la parole, ça ne nous apporte pas nécessairement tout de suite de la joie, hein, mais plutôt une conviction de péché. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mais vous voyez, quand on prépare des réunions souvent, on voudrait que les gens se trouvent tellement heureux, tellement bien tout de suite, qu'on fera toutes sortes de musique pour plaire. Est-ce que c'est ainsi que le Seigneur nous parle? Non. Dans nos églises, chers amis, nous avons besoin du ballet. Celui qui a reçu, verset 22, la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Et pour entendre la parole, qu'est-ce qu'il faut? Du bruit ou du silence? Du silence, hein. Quand on me disait, il n'y a pas très longtemps, que dans une certaine église, c'était la foire. Est-ce que c'est la foire? Ou bien c'est le recueillement. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema livré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré aussi parut. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de livré ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Vous retrouvez ce mot « arracher », hein ? Qui est-ce qui doit nous arracher du présent siècle mauvais ? C'est le Seigneur. Hein. Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sève qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, évidemment, il faudrait savoir qui sont ces oiseaux du ciel. À première vue, hein, on se dit, ce sont des bons chrétiens. Pas tout à fait. Verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et quand on entend expliquer cette parabole dans certains milieux, on nous dit le levain c'est l'évangile et toute la pâte c'est le monde qui va se convertir. Et tout sera à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées. Depuis quand? Depuis la création du monde, donc vous allez jusqu'à la Genèse. Hein. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui ? C'est le fils de l'homme. Le champ, c'est quoi ? C'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Est-ce que nous sommes la bonne semence ? Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est quoi ? C'est pas la fin du monde. Là, c'est mal traduit. C'est la fin du siècle. Comprenez-vous? C'est la fin du siècle. Ils ont confondu le monde et le siècle. C'est la fin du siècle. Les moissonneurs sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les anges. Heureusement. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et qu'est-ce que c'est ce champ? C'est le monde, hein, puisque le Seigneur l'a dit. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est quelqu'un qui achète son salut? Est-ce qu'on peut acheter son salut? Alors, de quoi est-il question? Vous y réfléchirez. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Demandez au Seigneur qu'il vous montre bien ce que c'est. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Parce que dans l'Écriture, il y a des animaux qui étaient purs et d'autres impurs. Il en sera de même à la fin du siècle. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez une Bible avec les références. Dans la référence, il y a toujours le mot « aion » qui veut dire « siècle ». Mais ils ont mis « monde », mais ce n'est pas le vrai mot. C'est la fin du siècle. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Je l'ai dit déjà ce matin. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, répondirent-ils. On est sûr. Alors, on va voir. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. Et on s'arrêtera là. Et je vous remets entre les mains du Seigneur pour que dans vos chambres, vous relisiez ces textes. Parce que pour connaître la parole, il ne faut pas lire seulement une fois, il faut relire. Il faut que ça vous devienne habituel. Et puis ensuite, vous pourrez partager. Dans vos groupes, vous avez le programme. N'ai pas mis de questions précises, vous mettez ce que vous avez trouvé sur chacune de ces paraboles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il nous prépare pour la fin de cette journée. Du Seigneur. Je ne sais pas comment vous avez été enseigné, parce qu'il y a bien des églises où on enseigne certaines choses qui, évidemment, ne correspondent pas à l'ensemble des Écritures. C'est pourquoi il me semblait utile de revoir ce que le Seigneur nous disait lui-même de ces paraboles. C'est vrai qu'il y a 4 évangiles et qu'on a pu discerner que l'évangile de Matthieu avait un thème particulier. Il nous présente le Seigneur comme étant le roi qui devait venir, fils de David. Et il s'adresse, cet évangile, plus particulièrement à des Juifs, puisque ceux qui écoutaient étaient de la religion juive. Dans l'évangile de Marc, on a discerné, et on pourrait s'y arrêter même, que c'est toujours la personne du Seigneur qui nous est présentée, mais non plus comme roi qui a été rejeté, mais comme le serviteur de l'Éternel. C'est le grand thème de l'évangile de Marc, où Jésus est venu pour servir. Alors, dans l'évangile de Marc, on commence tout de suite par le service du Seigneur. Il n'est pas parlé de sa naissance, tandis que dans Matthieu, nous avons des détails qui nous le présentent vraiment comme le roi qui reçoit l'adoration des mages. Dans l'évangile de Marc, c'est le serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dans l'évangile de Luc, Luc nous présente toujours Jésus, mais comme un homme, qui a été réellement un homme. Alors, on le voit à un jour, quand il naît. On le voit à 8 jours. Il y a un développement quand il est circoncis. Et puis, on le voit à 12 ans, quand il va à Jérusalem et que ses parents le perdent. Puis, on le voit à l'âge d'environ 30 ans. Donc, il y a tout un développement. Il a été réellement un homme, proche de tous les hommes. Mais il était pourtant Dieu. Et alors, dans l'évangile de Jean, le grand thème de Jean, c'est de nous présenter Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et puis, à un moment donné, la parole devint chair. Donc, il y a eu l'incarnation. Mais c'est donc 4 portraits du Seigneur. Et si vous voulez faire de ces 4 évangiles un seul évangile, bien vous ne voyez plus ces aspects différents. Et ce serait vraiment une grande perte. Et pourtant, il y en a qui ont cru que c'était nécessaire de faire, pour simplifier, un évangile avec les 4. C'est ce que vous aimez quand vous avez un enfant, hein? Vous ne faites qu'une photo de lui. C'est ça? Vous le prenez dans différentes poses, c'est toujours votre enfant, mais il a des expressions différentes. Et ça vous complète vraiment l'image, le souvenir de votre enfant. Mais j'ai connu des gens qui avaient une très petite Bible, parce que justement, ils disent, oh ça c'est pas pour nous, c'est pour les Juifs. N'est-ce pas? Par exemple, si on te frappe, qu'est-ce que tu fais? Faut tendre l'autre jour. Ah, mais ça, c'est pour les Juifs. C'est pas pour nous. Non, chers amis, laissons la parole pénétrer dans notre conscience et dans notre cœur. Alors, est-ce que je peux savoir un peu ce qui s'est passé dans vos ateliers ou bien? Ou bien est-ce qu'on prend le message? On prend le message. D'accord. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il a parlé, c'est la parabole du semeur. Dans les versets 1 à 9, on va l'exposer. Et puis, l'explication suit. Verset 18. Vous donc, à qui est-ce qu'il s'adresse? À ses auditeurs. Et pour tous les temps. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors il n'y a plus d'effet. C'est celui qui a reçu la semence sur le bord du chemin. Le semeur, c'est là où l'on passe. C'est un terrain dur. Le monde y passe et la parole n'a pas d'effet. Maintenant, il y a d'autres auditeurs. Celui qui a reçu la parole dans des endroits pierreux, vous l'avez compris, il entend la parole aussitôt avec joie. C'est peut-être un émotif. Il est ému en entendant cette parole. Et puis il prend une décision parce que on vous force de prendre une décision. Je n'apprécie pas toujours cela. Je crois que vous devez prendre une décision. Mais ce n'est pas moi qui vais vous forcer. J'ai à vous présenter la parole, la personne du Seigneur, et à vous demander de répondre à son appel à lui. Moi, je ne fais pas de conversion. C'est le Seigneur qui convertit les âmes. Le Seigneur ne s'est pas attribué les âmes. Il a toujours parlé de ceux que Dieu lui avait donnés. Et ça, c'est quelque chose. Et il n'en a perdu aucun. Mais il dit que c'est Dieu qui les lui a donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Comme créatures, nous appartenons à Dieu. Que nous croyons ou pas, nous appartenons à Dieu. Mais Dieu a donné ses âmes à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait de ses âmes? Il est mort pour elles. Il les a sauvées. Maintenant, les soucis de ce monde, pour le troisième exemple, celui qui est verset 22, qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, pour qui les soucis de ce monde, la séduction des richesses, étouffent la parole et la structure. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que je dois traiter mes soucis comme quoi ? Comme des péchés. Et c'est là notre grande délivrance. Quand vous avez un souci qui vous ronge, traitez-le comme un péché. Vous ne devez pas vous mettre en souci. Alors je rejette mes soucis comme des péchés. Quand je pêche, je sais comment je peux m'en débarrasser en confessant mes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Traitez vos soucis comme des péchés. Car c'est une parole du Seigneur qui dit « Ne vous mettez pas en souci pour votre vie. De quoi vous serez vêtu, de quoi vous mangerez, etc. » Alors nous voyons ce qui peut étouffer la semence. Maintenant, la bonne terre, c'est une terre qui a été labourée, hercée peut-être, aplatie, et puis la semence produit du fruit. Et qui est le semeur ? C'est le Seigneur. En verset 24, livrés, il leur propose une autre parabole, mais ce qu'il montre, c'est ce qu'est devenu le royaume. Si Jésus avait été reçu, le royaume aurait commencé. Mais comme il n'a pas été reçu, il n'a pas pu s'établir. Alors c'est là ces mystères du royaume. Le royaume des cieux a été fait littéralement semblable. Quelque chose n'a pas pu s'accomplir. Et alors, qu'est-ce que nous connaissons par l'histoire, pendant que les gens dormaient, un ennemi vint et se mit à livrer au milieu du blé et s'en alla. Qui est l'ennemi ? C'est Satan. Et alors quand les serviteurs du maître de la maison, qui s'étaient donc endormis, qui n'ont pas veillé, constatent que l'ivraie s'y trouve, ils demandent s'ils peuvent arracher l'ivraie. Et c'est ce qui s'est fait dans la chrétienté, dans l'Église primitive. Bien souvent, on voulait arracher l'ivraie. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? On risquerait de se tromper. Hein? Alors non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et ça s'est fait bien souvent dans l'histoire ecclésiastique. On a brûlé quelqu'un, puis après, on l'a déclaré bienheureux. Parce qu'on s'est aperçu que on s'était trompé. Et c'est cela que le Seigneur nous enseigne. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, verset 30. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, le blé, c'est quoi ? C'est les vrais croyants qui doivent être amassés dans son grenier. Et le grenier, c'est quoi ? c'est le ciel. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Maintenant, il nous parle du grain de moutarde et du levain. Une autre parabole, donc, verset 31. Comment est-ce que l'œuvre a commencé après la mort du Seigneur et sa résurrection? Est-ce que c'était une grande force? Non. Ça a commencé en petit. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Ne crains pas, petit troupeau. Mais voilà, on a voulu faire des choses en grand, et puis on s'est éloigné. L'Église a voulu être une grande puissance, et au lieu de s'appuyer uniquement sur le Seigneur qu'il avait fondé, elle s'est appuyée sur le monde. Et alors elle a voulu que le monde l'approuve, lui aide. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'en cessant de dépendre spirituellement de son Dieu, de son Sauveur, elle a imité ce qui existait dans le monde et a voulu la puissance civile. Et alors, qu'est-ce qui est venu habiter dans ces branches? Les oiseaux. Alors, vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux? Le Seigneur ne se contredit pas. Verset 4. Les oiseaux vinrent et dévorèrent quoi? La parole. Au lieu de se laisser inspirer par la parole, on a dévoré la parole. On a mis de côté la parole. Et c'est toute l'histoire qu'on a dans la chrétienté. Ces oiseaux du ciel, c'est les grands de ce monde. Et c'est quelque chose de terrible que de se rendre compte à quel point on avait abandonné la parole. Et si vous voulez savoir ce que c'est que ce grand arbre, il vous faut aller dans Ézéchiel et ça vous montre que c'est une puissance mondaine. Comment? Mais passons plus loin. Prenons le levain. Comment l'interprétez-vous, cette parabole? Oui. Alors, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on a apporté? Un élément corrupteur. Parce que, qu'est-ce que c'est que le levain? C'est de la pâte corrompue. Hein? comment? Qu'est-ce qu'il trouvera dans Ézéchiel? Vous avez dit quel chapitre? Chapitre 17. Ainsi parle l'Éternel. Je prendrai moi une branche de la cime d'un cèdre élevé, je la mettrai en place, j'arracherai le sommet de ses branches, un tendre rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne haute et sublime. Je le planterai sur la montagne qui domine Israël, il dressera sa ramure et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui et l'ombre de ses branches ils reposeront. Ben, c'est ce qui est arrivé. Et tous les arbres des champs reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et nous aurions d'autres passages encore dans ce livre d'Ézéchiel. La parabole du cèdre abattu. Vous pouvez le lire. Alors écoutons l'explication du Seigneur. Au verset 36, il laisse les foules et entre dans la maison, ses disciples s'approchent de lui et disent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et Jésus dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mal. Il y a eu mélange entre les vrais chrétiens, les vrais croyants, et ceux qui n'étaient que de profession. Et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est le monde, c'est la fin du siècle, de ce temps. Les moissonneurs, ce sont qui? Les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, ce n'est pas les hommes qui jugeront là, c'est les anges. Ils jetteront dans la fournaise de feu et il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Puis vous avez alors au verset 44 le trésor caché. Qu'est-ce que c'est pour vous le trésor caché?
C'est nous qui sommes des trésors cachés en fait.
Exactement. Et c'est le Christ qui a voulu avoir le trésor caché. C'est pas le salut, le trésor caché. C'est nous-mêmes. Vous êtes précieux au cœur du Seigneur. Il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté le champ. Comment est-ce qu'il a acheté le champ ? Par sa vie. Il a racheté le monde. Et le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Qu'est-ce que c'est que la perle ? C'est l'Église. La perle de grand prix, c'est les croyants, son Église. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté par son sang. Vous n'êtes pas sauvés par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Et alors, dans la parabole du filet qui est jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce, quand il est rempli, il est dit, on le tire sur le rivage, puis on s'assied et on recueille dans les vases ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Comment est-ce que les disciples pouvaient savoir qui était un vrai chrétien ? Selon l'Écriture. Qu'est-ce qui était un bon poisson? Ce qui était un bon poisson, il y a deux choses qui le caractérisaient. Il devait avoir des écailles et des nageoires. Des nageoires pour remonter le courant. Et non pas suivre le courant, mais remonter le courant. Alors, le poisson qui avait des nageoires, c'était le vrai. Et puis, les écailles qui le protégeaient du milieu dans lequel il se trouvait. C'est toujours par l'Écriture que nous pouvons comprendre ces choses. Comment ? Le son est très bas. On tâchera de parler plus fort. Mais je voudrais vous entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jésus a dit ?
Je rappelle, dans notre groupe, il y a plusieurs gens qui ont accroché sur le prêt de trésor, il a trouvé le cache de nouveau. Je veux vous commenter ? Il le cache de nouveau, les autres ils voulaient savoir pourquoi.
Mais notre vie, elle est cachée dans le Christ en Dieu. Et elle sera pleinement manifestée quand il reviendra. Mais un chrétien authentique, c'est pas un homme qui fait de la propagande spirituelle, qui se met en avant. Il sait qu'il appartient au Seigneur et il a une vie intérieure. Une vie cachée. Il est caché en Christ. Et quand le Christ sera manifesté en gloire, alors nous serons manifestés avec lui. Vous avez cela dans Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Où est le Christ ? Il est caché. Il est en haut. Assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est cela que nous devons bien comprendre. Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est à son retour que nous serons vraiment manifestés. Oui.
Dans notre groupe, là, nous avons fait le lien avec une scène. Siècle présent, siècle
avenir.
Et puis nous avons remarqué un point commun dans toutes ces paraboles. Donc dans le siècle présent, quand on considère toutes les paraboles, il y a un mélange de bon et de mauvais au même endroit.
Oui.
Qui représente le siècle présent. Par exemple, ceux qui reçoivent la parole au point de produire du fruit, et ceux qui la reçoivent superficiellement, pas du tout. Le vrai blé est livré. L'imitation.
Oui.
Dans un même champ. C'est le trésor caché dans un champ, mais dans le champ, ce n'est pas tout ce qu'il y a là-dedans qui est comme ce trésor-là. Une perle de grand prix, eh bien, chez ce marchand-là, c'est pas tout ce qui est perle qui était de grand prix. La perle de grand prix avec perle de moins grand prix dans le même magasin. Des poissons de la bonne espèce, puis d'autres de mauvaise espèce.
Oui.
Donc ça, c'est le siècle présent. Et puis vers la fin, au temps fixé, le tri sera fait par celui qui a donné sa vie, donc qui a tout vendu, tout donné, pour avoir ce qui est bon dans ce siècle présent.
Merci. Le royaume, il existe, hein? Mais en quelle absence? En l'absence du roi. Alors, après la parabole du semeur, vous avez donc encore 6 paraboles, de sorte que nous en avons 7. Mais les 6 paraboles se divisent en 2 parties de 3 chacune, qui nous montre la forme extérieure que prend le royaume par l'introduction du mal qui a commencé dans l'Église primitive déjà, et puis deuxièmement ce qui est de Dieu dans cet état de choses. Je rejoins ce que notre frère a dit, il y a des 2 choses. Parce que chez les Juifs, le royaume, il n'était composé que des descendants de qui?
D'Abraham.
Tandis que dans l'Église, il y a les Juifs et les Grecs, les Juifs et les païens, qui sont les inconvertis du judaïsme, et les autres du paganisme.